Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous écouter sur Canal Académie avec Yves-Marie Bercé de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, historien moderniste. Nous poursuivons notre série sur les grands personnages méconnus de l'histoire de France des XVIe et XVIIe siècles. Après le président Jeannin, homme de robe, au-dessus de la mêlée, négociateur, avisé, pondéré, tolérant. Après Vincent de Paul, saint homme au service des démunis, nous vous présentons un personnage tonitruant, un héros digne des romans d'Alexandre Dumas. Et après chaque épisode de sa vie, on attend impatient la suite du feuilleton. Et on n'est jamais déçu parce que sa vie est une cavalcade qui enchaîne les rebondissements pendant 88 ans. Il s'agit du duc d'Épernon, né en 1554, mort en 1642. Jean-Louis de Nogaret de la Valette, duc d'Épernon, homme de guerre, homme d'État, fut pendant trois règnes, Henri III, Henri IV, Louis XIII, et pendant la régence de Marie de Médicis, l'un des principaux personnages de la noblesse française. Bonjour Yves-Marie Bercé.
Bonjour.
Épernon fut l'un des mignons d'Henri III. Il entoura le roi dans ses derniers moments en 1589. Il se rallia à Henri IV, assista à son assassinat en 1610, puisqu'il était dans le carrosse aux côtés du roi, quand Ravaillac poignarda le roi. Puis il assura la totalité du pouvoir à Marie de Médicis et fut un de ses indéfectibles alliés. Elle n'en a pas eu tant qu'il soit aussi assurément pour elle. Il servit Louis XIII, mais Richelieu s'en méfiait terriblement et l'écarta de la cour. Yves-Marie Bercé, qui est ce héros de cap et d'épée, cet homme d'État, adoré par les uns, détesté par les autres, en tout cas craint par tout le monde, dont le caractère était pour le moins mal commode, disait-on?
C'était certainement une personnalité exceptionnelle. Il a aussi eu l'illustration, la chance de vivre sous trois rois et donc à des époques, des conjonctures politiques extrêmement différentes. Brantôme, dans La vie des grands capitaines, qu'il écrit dans les années 1600, c'est-à-dire pendant la période pacifique du règne de Henri IV, accorde une brève notice au duc d'Épernon. Il dit « Il était lieutenant général et gouverneur et colonel exerçant tous les états ensemble et s'en acquittant très dignement et vaillamment, car on ne lui saurait reprocher qu'il ne fût très brave et très vaillant, et avec cela fort accompli et universel en tout, tant pour la cour que pour la guerre, pour les affaires d'État, pour les finances, pour les discours, pour gentillesse, pour les dames et l'amour. Monsieur d'Épernon a équipolé et parangonné à lui les grands empereurs et braves qui ont été depuis Charlemagne jusqu'à lui. »
Ça, c'est un beau panégyrique.
Voilà, et traduit en tout cas la reconnaissance de Brantôme pour la valeur de Nogaret de la Valette comme chef de guerre, comme entraîneur d'hommes. Je crois qu'effectivement, c'est au bout du compte, on va retracer quelques-uns des épisodes de son existence très chaotique, très pittoresque, mais ce qu'on retiendra au bout du compte, sans doute, c'est cet aspect de chef militaire capable d'entraîner après lui les fidélités de milliers de soldats. Il a bénéficié aussi de plumes favorables, d'écrivains non négligeables de son temps, et ses apports, si vous voulez, littéraires, prouvent que il avait certainement un charisme, un charme personnel. Alors, on possède une histoire de la vie du duc d'Épernon qui a été rédigée par un secrétaire, un fidèle secrétaire nommé Guillaume Girard, qu'il avait accompagné dans les dernières années de sa vie et recueilli ses confidences jusqu'à la mort du vieux duc d'Épernon en 1642. Guillaume Girard a publié ce texte, La vie du duc d'Épernon, en 1665, et ça a été un succès de librairie qui a été réédité plusieurs fois dans la fin du XVIIe et au cours du XVIIIe siècle. Et puis, on sait aussi que Guillaume Adère, c'est un écrivain gascon qui participe de la petite renaissance très brève de la littérature occitane, de la littérature de Languedoc, fin 16e, début 17e siècle. Et Guillaume Adère écrit un livre qui paraît en 1610, s'appelle « Le gentilhomme gascon » et qui est dédié au duc d'Épernon, qu'il compare à rien moins qu'Achille. Et ensuite, encore un autre secrétaire du duc d'Épernon, qui est Jean-Louis Guez de Balzac, consacre plusieurs lettres à faire l'apologie, dans les années 1620-1630, l'apologie du duc d'Épernon. Jean-Louis Guez de Balzac, qui fait partie des courants littéraires, libertins même, des premières décennies du XVIIe siècle, portait significativement le nom de Jean-Louis parce qu'il était un des nombreux filleuls du duc d'Épernon qui s'appelait Jean-Louis de La Valette.
Oui, c'était un personnage qui était flamboyant, un peu dans sa façon d'être, puisqu'il séduisait.
Il séduisait. Ces témoignages, vous voyez, d'hommes de lettres, bien éloignés des parades, des coups d'épée, des cavalcades, de la vie militaire, apportent une autre facette, enfin, nous confirment le fait qu'il s'agissait d'une personnalité hors de pair.
Alors, quelles sont ses origines familiales ?
Alors, on dira qu'il se rattache à une famille de moyenne noblesse gasconne, de la moyenne Garonne ou des Pyrénées. Et son père était déjà un soldat de mérite qui a figuré à la bataille de Jarnac, dont Brantôme avait remarqué les mérites. Le jeune Jean-Louis combat aux côtés de son père dans le camp catholique dès le début des guerres de religion. Et puis, il va n'avoir de cesse dès 1500, on peut dire à peu près 1573, de se faire remarquer à la cour du duc d'Anjou, le futur Henri III, et puis aussi de la reine régente Catherine de Médicis, qui connaissait la réputation de sa famille. Alors comment parvient-il à se faire remarquer ? Comment peut-on être, certes, un soldat valeureux, mais il y en a certainement des dizaines et des centaines d'autres dans l'armée royale ? Alors on nous raconte que dans les bivouacs de campagne, il s'appliquait à faire dresser sa tente personnelle aussi près que possible de celle du roi. Et qu'il dépensait des fortunes considérables dans l'apparat, le luxe de cette tente et de son équipage, ayant les plus beaux chevaux avec les harnachements les plus superbes. Et sans doute, ces opérations de prestige, de vanité, réussissent assez bien, puisque le duc d'Anjou, devenu Henri III, le remarque et en fait un de ses proches amis.
Je voudrais qu'on parle des mignons, mythe et réalité, Henri III et ses mignons. Ça correspondait à quoi sur le plan social ou sentimental ?
Alors, je crois qu'effectivement, c'est le terme sentimental qu'il faut retenir plus que social, dans la mesure où ce sont des gens, qui sont certes des gentilshommes de souche remarquable, mais ce ne sont pas des hauts dignitaires, ils ne sont pas choisis par le roi pour les mettre dans son entourage comme des conseillers politiques, comme des responsables d'un département ministériel. Ce sont des amis, des compagnons, et c'est uniquement pour leur beauté, leur talent, leur entrain, leur qualité juvénile, ils sont à peu près de l'âge personnel du souverain, c'est pour l'ensemble de ces qualités que le roi aime à les avoir auprès de lui.
Ça le rassure.
Ça le rassure. Alors, il faut comprendre que c'est un trait sans doute particulier de Henri III, mais c'est aussi un caractère politique qui est commun à cette époque de guerre de religion dans l'ensemble de l'Europe, où les fidélités, l'obéissance étatique au souverain est contredite, concurrencée par l'appartenance confessionnelle. C'est-à-dire qu'il est plus important de savoir si l'on est de la même religion du souverain et si on doit lui obéir dans ce contexte de guerre religieuse. Henri III ressent profondément cette instabilité, l'inquiétude qui le frappe, et c'est pourquoi il va tenter d'avoir autour de lui ses présences charnelles, personnelles, non institutionnelles, amicales, qui vont être donc le premier cercle d'amitié des ce qu'on appelle les mignons. Le mot mignon, d'ailleurs, est devenu péjoratif après les polémiques politiques qui entouraient les circonstances du règne de Henri III. Mais au départ, mignon veut simplement dire bon ami, de même que, par exemple, à l'époque, les jésuites aiment à se dire mignon de Jésus-Christ.
Oui, il ne faut pas que notre mentalité actuelle se trompe sur les mœurs de ce temps-là.
Ah oui, mignon, par exemple, même encore au XVIIe siècle, Louis XIV, parlant à son arrière-petit-fils Louis XV, lorsqu'il vient approcher de la mort, lui dit « mon mignon ». C'est un terme d'amitié qu'on adresse aux petits-enfants ou à quelqu'un que l'on chérit. Voilà comment s'explique le mot « mignon ». Et Henri III parle de « mes enfants ». « Ma chère bande », dit-il, ou il y a encore un autre terme. Enfin bon, c'est des termes d'amitié proches. Alors Henri III va instituer aussi un ordre chevaleresque, l'ordre du Saint-Esprit, en 1578, qui participe de la même idée, c'est-à-dire d'avoir autour du souverain un cercle
de fidèles. Voilà, qui de gentils hommes fidèles.
Oui, de gentils hommes fidèles, et qui lui doivent leur carrière, leur ascension, qui ne la tiennent pas de leur fortune, de leur possession territoriale ou de leur dignité politique, mais qui leur doivent simplement à l'estime, à l'amitié personnelle du souverain et qui ont donc un commerce de fidélité indéfectible envers lui. Et ensuite, on dira que cette insécurité que ressent profondément Henri III, à juste titre, on sait, puisqu'après tout, il va finir
assassiné.
Il est vrai donc que c'est une époque où le meurtre politique est en quelque sorte réhabilité, est présent dans les annales du temps, et il va ressentir le besoin d'avoir une garde rapprochée des gardes du corps, les 45, qui sont des hommes de main, de très petite noblesse, qu'il a recrutés en 1585 ou 6, et dont beaucoup d'entre eux viennent des provinces aquitaines et ont été recrutés justement par l'intermédiaire d'Épernon.
C'est alors, les fameux 45 qui vont 45 assassiner
qui
le duc de Guise.
Sont chargés d'assassiner le duc de Guise. Il est symptomatique de voir que ce sont ces hommes de main qui en sont chargés et non pas les gardes écossaises ou les gardes françaises.
Ça, c'est un vrai coup de majesté.
C'est un coup de majesté, c'est-à-dire que c'est, on dirait aujourd'hui que ce sont une opération sale dont on charge des gens de l'ombre. Alors, ce sont des gens qui sont non institutionnels. Ayant envisagé, si vous voulez, ces besoins sentimentaux de Henri III, revenons sur la chronologie. C'est en 1579-1581 que éclate la faveur de Anne de Joyeuse et de Jean-Louis Nogaret de La Valette. L'un et l'autre vont être faits duc et pair en 1581 et puis décorés de dignités extraordinaires, Joyeuse devenant amiral de France et La Valette, décorée du titre de duc d'Épernon, colonel général de l'infanterie française. Le titre existait, la dignité appartenait à Pierre Strozzi, de famille florentine célèbre, qui est prié instamment à ce moment-là de résigner sa charge et qu'on envoie se faire tuer, enfin, ce n'est pas ce qui était prévu, mais enfin, il envoie commander une expédition contre les Espagnols dans les Açores où il va trouver la mort. Donc, exit Pierre Strozzi et c'est Épernon qui, en 1581, se trouve dans la même année à la fois duc et pair et colonel général de l'infanterie française. Alors, il faut prendre la mesure de cette charge.
Il tenait l'armée.
C'est toute l'armée de
toute
terre.
Toute l'armée de terre qui était dans sa main.
Qui est dans sa main, dont il a la possibilité de constituer des régiments ou de les casser, de désigner des capitaines, des colonels, organiser des levées de recrues, de distribuer les soldes, d'exercer la justice militaire. C'est un pouvoir considérable et qu'il exerce sans doute avec talent et avec compétence, puisque Il gardera effectivement, à travers les règnes, cette dignité. Et on constate que chaque fois qu'il y a des périodes de crise, il est capable de réunir à son appel, en l'espace de quelques jours, des milliers d'hommes qui répondent à son appel personnel. Donc il est certain que, à la fois, cette charge exceptionnelle qu'il en donne institutionnellement,
mais
le
il
pouvoir,
en avait l'étoffe.
Mais il en est capable de l'assumer pleinement.
Joyeuse va mourir, donc Épernon va rester seul,
voilà,
comme
Joyeuse
mignon favori. Enfin, je sais qu'il y en a d'autres.
À la bataille de Coutras en 1587. Et à ce moment-là, Henri III est dans une période toujours difficile à la fin de son règne, puisqu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'héritier, et la couronne doit donc passer au prince de Navarre, qui est le chef du parti protestant, qui entretient depuis, pas lui personnellement, mais enfin le parti protestant, depuis une vingtaine d'années, une guerre civile à l'intérieur du royaume. Par conséquent, c'est une hypothèse qui indigne une très grande partie de l'opinion. Henri III se trouve pris à la fois entre cette solution dynastique auquel il est difficile d'échapper, et d'autre part, le ressentiment que l'immense majorité catholique peut éprouver vis-à-vis de cette hypothèse. Alors, il va essayer de fluctuer, et il a besoin, plus que jamais, d'avoir un soutien personnel comme celui d'Épernon dans ce type de contradiction. Alors, en 1587, où Henri III donc joue sa popularité et même son trône, Épernon se trouve au fait de sa fortune. Il est à la fois, à ce moment-là, il faut énumérer, il a obtenu les gouvernements des places de Metz, cité frontalière des trois évêchés aux confins de la Lorraine et de l'Empire, Boulogne, port sur la Manche,
port stratégique,
Loches en Touraine, qui est un carrefour de route qui contrôle la route du sud-ouest vers Paris, la Provence, la Normandie, dont il a le gouvernement depuis la mort de Joyeuse, et puis l'Aunis, Saintonge et l'Angoumois, ce qu'on appellera les pays charentais, qu'il a depuis 1581. Donc c'est le personnage le plus puissant, certainement, en termes de territoire contrôlé de l'ensemble du royaume.
Mais ce sont des territoires contrôlés parce que le roi lui en a donné la fonction, mais pas du tout des territoires personnels.
Non, c'est ça. Ce
n'est pas une richesse personnelle.
On ne peut pas lui appliquer le terme de grand féodal. C'est un grand gouverneur qui tient ses pouvoirs, révocables ad nutum, qui les tient de la volonté du roi, du choix personnel du roi. Alors, en 1588, au moment où Henri III cherche à se rapprocher de la Ligue et des Guises et du parti dominant catholique, une des conditions de cette réconciliation catholique est la disgrace d'Épernon. Effectivement, il se retire à ce moment-là, pendant quelques mois, dans son territoire solide de l'Angoumois.
Et pourtant, il est là, auprès d'Henri III, mourant.
Il ne revient auprès d'Henri III que après la rupture de Henri III avec les Guises, avec le meurtre du duc de Guise, la dissolution des États généraux et le retournement de Henri III qui obtient le ralliement à l'armée royale des troupes protestantes. Donc c'est dans cette alliance désormais de fait entre les royaux et les protestants que Épernon va revenir auprès de Henri III. Il est auprès de Henri III qui assiège Paris avec l'aide du prince de Navarre. Et c'est à ce moment-là, donc, que le 1er août 1589, que Henri III est assassiné. Épernon est bouleversé, puisque, il le dira plus tard, c'était son maître, il dit « mon tout ».
Oui, en plus, il lui devait tout.
Il lui devait tout. Je crois qu'effectivement, il l'aimait profondément. Et il est bouleversé, et à ce moment-là, il est assez ami du roi pour venir le servir aux côtés des protestants, mais il est en même temps assez catholique pour refuser de se rallier à un roi hérétique.
Donc il va faire partie de la Ligue ?
Non. Il quitte, avec toutes ses troupes, il quitte le siège de Paris. Il abandonne le roi devenu Henri IV. Et beaucoup de catholiques modérés ont accepté de servir celui qui était jusque-là légitime, Henri III. Mais en août 89, ils n'osent pas se rallier à un prince protestant qui assiège Paris. D'ailleurs, après le départ d'Épernon et de ses troupes, Henri IV est obligé de lever le siège de Paris. Alors, il va trouver asile, une fois de plus, en Angoumois, puis en 1592, en Provence. Il s'installe en Provence. Alors, en Angoumois et en Provence, ce sont des territoires qui sont majoritairement, incontestablement catholiques, dans lesquels il observe une sorte de neutralité. Et il déteste les... Personnellement, il déteste l'Église et l'Église le déteste. Donc, il n'a jamais rallié cérémonieusement, solennellement, la Sainte Union. Il défend la cause catholique et il se bat d'ailleurs contre les protestants du Dauphiné qui envahissent le nord de la province, menés par les Lesdiguières. Donc, il maintient la Provence dans le camp catholique. Ensuite, en 1592, la situation devient difficile à tenir puisque Henri IV s'est converti au catholicisme, se fait sacrer. Les Guises, Mayenne et le jeune duc de Guise, négocient leur ralliement et Henri IV nomme le jeune duc de Guise, le fils du Balafré, le fils de celui qui a été assassiné par Henri III, et le nomme gouverneur de Provence, c'est-à-dire à la place d'Épernon.
Qui se fait...
Alors, Épernon, à ce moment-là, opère des négociations avec des émissaires espagnols, leur promettant de remettre au roi d'Espagne des places stratégiques de la côte provençale. Mais ces négociations, il prend soin de les faire au grand jour et de les ébruiter considérablement.
Pour faire peur à Henri IV ?
Pour faire peur à Henri IV, pour faire monter les enchères. Et ce qui réussit est effectivement, puisque Henri IV souhaite rallier toutes les provinces et toutes les personnes qui ont une autorité de fait, comme Mayenne en Picardie et en Champagne, comme Mercœur en Bretagne, donc Guise désormais en Provence. Et le ralliement d'Épernon est au prix des confirmations de ses dignités. Alors, le voici donc rallié à Henri IV. Il n'a pas été ligueur, il a tenu le parti catholique. Il a attendu que la légitimité d'Henri IV, en quelque sorte, se confirme, que le succès vienne balayer d'autres hypothèses. Alors, on dira que c'est un empirique. Il n'a pas de principe politique. Épernon n'est pas un lettré, ce n'est pas un intellectuel, c'est un homme d'action. Il vit dans l'instant. Dans l'instant, le ralliement d'Henri IV est la meilleure solution. Je pense que ses calculs politiques n'allaient pas plus loin.
C'est un homme de terrain.
C'est un homme de terrain. Et vis-à-vis d'Henri IV, on voit que dans la période pacifique du règne d'Henri IV, de 1598 à 1610, Épernon ne tient pas un rôle de premier plan. Comme toujours, ses colères, ses attitudes hautaines, son tempérament violent lui aliènent les sympathies et le font tenir à l'écart. Henri IV le traite comme un bon compagnon. Et au fond, c'est ce que faisait Henri III également. C'était un ami, un compagnon. Il fait partie du petit nombre de grands gentilshommes qui sont capables de passer des nuits entières au Louvre jusqu'au petit matin à jouer un très gros jeu aux cartes ou aux dés avec Henri IV, au désespoir du surintendant des finances.
Sully s'arrachait les cheveux.
Il joue, Épernon et Sully se détestaient. Et donc, il fait partie des compagnons de jeu et de chasse, et pas des conseillers politiques. Le fait qu'il soit une sorte, finalement, de compagnon, d'ami, de fidèle, explique qu'il se trouvait dans le carrosse de Henri IV au moment de son assassinat. Et c'est Épernon qui, dans les minutes suivantes, est capable de garder le sang-froid, la présence d'esprit pour prendre les mesures de politique et puis de maintien de l'ordre qui sont nécessaires dans l'instant. C'est lui qui appelle tout de suite la prévôté, les gardes suisses, pour faire mettre des postes au Louvre et devant aussi les sièges des ambassadeurs d'Espagne et des Pays-Bas, dont on peut craindre qu'ils soient attaqués par la foule parisienne. Donc c'est lui qui a la présence d'esprit d'assurer le maintien de l'ordre. Et c'est lui aussi qui a la présence d'esprit de dire à Marie de Médicis de la prendre par la main et de l'amener au Parlement de Paris pour lui faire prendre immédiatement la régence et pour qu'il n'y ait pas de vide du pouvoir, de vide de l'autorité.
Marie de Médicis est un personnage qui l'a servi avec le plus de fidélité possible, peut-être parce qu'elle était catholique.
Oui, bien sûr, mais 80% ou 90% des Français sont catholiques, donc c'est
mais
pas...
Mais il était quand même toujours un peu du parti qui était bien content que ce soit de nouveau une ouverture avec l'Espagne.
Mais c'est-à-dire qu'on sortait d'une guerre avec l'Espagne qui venait de s'arrêter en 1598. La paix en Europe était bien évidemment, comme à toute époque, souhaitable. Et l'immense majorité des catholiques souhaitaient un apaisement et non pas un affrontement qui coûtait cher et qui coûtait du sang. Donc l'hypothèse, surtout dans une période de régence, c'est-à-dire de relative faiblesse de l'autorité, était de parvenir à une réconciliation entre les couronnes et à la sceller par des mariages dynastiques, ce qui a toujours été dans les traditions politiques des monarchies, de l'équilibre des couronnes. Donc Épernon aurait pu être un conseiller direct de Marie de Médicis. On s'aperçoit qu'il ne l'est pas, qu'il n'y réussit pas. Là encore, je crois qu'on peut mettre en cause cette incapacité qu'il a d'assumer un rôle direct de conseiller. La vérité, c'est qu'il n'a pas de culture politique théorique. Alors, on peut dire un mot là de son caractère, puisqu'on est là parvenu à une sorte de maturité du personnage. Il est intelligent, il est lettré, il parle le français de la cour. Cependant, il continue à affecter, quand il le souhaite, un énorme accent gascon, et il écrit un très grand nombre de lettres, mais il les écrit en orthographe phonétique qui reprend l'accentuation gasconne, qui est tout à fait... Enfin, lire ses lettres, c'est très, très amusant parce qu'on y retrouve véritablement le parler du sud-ouest.
On l'entend.
Et je crois qu'il en a toujours joué. Il a cette affectation qui est propre à certaines cultures nobilières d'affecter, de mépriser les études, la connaissance. Et c'est vrai que lui, il n'a pas fait des études. Il est intelligent, il est tout à fait lettré, il a une bibliothèque, il a une armée de secrétaires qui travaillent pour lui, il rédige des règlements de l'infanterie, il sait lire des plans de guerre, il est peut parler avec des ingénieurs mathématiciens spécialistes de l'art des forteresses et de polyorcétique, mais en même temps, on sait que ce qu'il se fait lire par ses secrétaires, ce sont des romans de chevalerie ou des traités de politique, de pamphlets contemporains, mais jamais des livres qui relèveraient de la philosophie, de la théologie ou d'autres connaissances abstraites.
Ça devait être assez courant chez les gentilshommes campagnards, cette culture, mais non pas le côté cultivé, Montaigne dans sa tour. C'était pas ça, les gentilshommes campagnards.
Oui, mais Henri III était lettré. Il tenait une académie où il recevait d'autres de ses mignons, comme Joyeuse ou François Dau, qui, eux, étaient des gens extrêmement cultivés et qui se trouvaient être, eux aussi, des archi-mignons. Donc, je ne pense pas que ce soit... Les Condé, par exemple, ont toujours eu une tradition d'approfondissement intellectuel. Les Rohan également. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit l'ensemble de la grande noblesse.
Oui.
C'est une affectation spécifique qui est représentative de certains préjugés d'une partie de la noblesse. Alors, on peut Marie continuer, si vous voulez, avec Marie de Médicis.
Marie de Médicis et ses problèmes avec Louis XIII, lui, alors, le Pernon, a soutenu Marie de Médicis.
Oui, on
tout
ne
le
peut
temps.
Pas raconter, si vous voulez, tous les épisodes. On est obligé de résumer ces conjonctures politiques, mais on sait qu'au cours de la régence de Marie de Médicis, pendant la minorité de Louis XIII, la réalité du pouvoir appartenait à Concini, maréchal d'Ancre, qui était un secrétaire florentin que Marie de Médicis avait amené avec elle et qui avait toute sa confiance. Or, en 1617, en avril 1617, le jeune Louis XIII devenu majeur...
Fait assassiner Concini.
Impatient de cette tutelle injuste, inhabile, illégitime, fait assassiner Concini et renvoie sa mère en province au château de Blois. Il y a donc une rupture là qui ne peut pas ne pas alarmer l'opinion. C'est-à-dire que l'opinion parisienne, ou enfin l'ensemble du royaume, est partagée entre, d'une part, le désir de renouveau, la légitime impatience d'un jeune roi, et puis en même temps la compassion pour la reine régente qui se trouve reléguée et dont l'amour maternel serait contrarié. Alors, dans cette conjoncture politico-sentimentale, le duc d'Épernon se trouve rangé parmi les mécontents, les éternels, mais à vrai dire, c'est un éternel mécontent, bien qu'il soit chargé d'honneur. Il se trouve installé, établi dans son gouvernement de Metz, et il reçoit des messages secrets envoyés par Marie de Médicis depuis son exil dans le château de Blois, en Touraine, des appels au secours pour demander un support militaire pour que la reine-mère échappe à cet exil et puisse affirmer dans le royaume une sorte d'alternative politique. Parce qu'il ne s'agit pas de discuter les droits du jeune Louis XIII, mais l'usurpation de son autorité par son favori, Luynes, qui est un personnage finalement médiocre, sectaire, et qui a gaspillé le petit capital d'enthousiasme et de sympathie qui était présent en 1617, au moment du coup d'État, du coup de majesté royale, la
de
rupture avec Concini. Alors, c'est au fond la détestation de Luynes qui fait que Épernon va se trouver dans le camp des mécontents et va voler au secours de la reine Marie de Médicis, emprisonnée, enfin reléguée dans son château de Blois.
Et qui s'échappe, comme dans les romans, de cap et d'épée.
Déjà, alors, Épernon quitte Metz en secret. Et il a une escorte composée d'une centaine de cavaliers, ce qu'on appelle des chevaux légers, c'est-à-dire ce sont soit des gardes de sa compagnie, soit des gentilshommes de sa clientèle, qui sont équipés en cavaliers à la légère, c'est-à-dire armés, on les appelle des carabins ou des fusiliers ou des mousquetaires, suivant le type d'armes à feu dont ils sont armés. Ils portent la carabine en bandoulière et ils ont deux pistolets dans leur fonte. C'est ce qu'on appelle des chevaux légers. Et dans cette escorte d'une centaine d'hommes, il y a aussi des mulets qui portent 8000 pistoles en espèces et un coffre de fer de pierrerie. C'est-à-dire que c'est tous les moyens en liquidité personnelle. Et il annonce qu'il va en Angoumois, qu'il va passer de Metz en Angoumois, ce qui fait qu'il évite Paris, il va passer par la Bourgogne, par le Limousin, et arrivé à la hauteur de Confolens, il bifurque vers, au lieu d'aller vers Angoulême, il bifurque vers le nord, vers la place de Loches, dont il a gardé toujours le gouvernement, et c'est là qu'il va attendre, secrètement, l'évasion de Marie de Médicis. Alors, il y a des gentilshommes de l'entourage de la reine-mère qui, la nuit de, je crois que c'est le 27 février 1619, l'aide à passer par-dessus les remparts, à descendre par une échelle de corde, puis par un mélange de sacs dans lequel on l'enveloppe pour on les fait glisser sur les éboulis qui sont au pied du rempart. Elle a 46 ans, elle est assez corpulente et elle résiste tout de même
pour
à
une reine de France, enfin une reine-mère.
Et c'est quand même étonnant. Au petit matin, elle traverse les rues de Blois, soutenues par deux de ces gentilshommes qui la tiennent chacun par un bras. Et ça la fait rire. Elle dit, on va me prendre pour une de ces bonnes dames, c'est-à-dire pour quelqu'un qui a une aventure pendant la nuit. Et il y a un équipage qui l'attend et on l'emmène à Loches et de Loches ensuite à Angoulême où elle va être en position de traiter avec son fils en position de force puisqu'elle est derrière les carabins d'Épernon et les murs du château d'Angoulême.
Oui, mais là, le duc d'Épernon va être accusé de l'avoir kidnappé. Enfin, kidnappé, oui. C'est pas le bon mot parce que
mais
pas pour
dans
la
mesure où la réconciliation entre la mère et le fils. Bon, je ne vais pas rentrer là aussi. Il y a deux guerres de la mère et du fils qui se prolongent jusqu'en 1620. Et les négociations entre le conseil du roi Louis XIII et sa mère sont menées, comme vous savez, par un jeune ecclésiastique, un jeune prélat que l'on connaissait assez peu jusque-là et qui révèle son art de la négociation, qui est Richelieu, évêque de Luçon. Et c'est lui qui donc négocie en même temps le retour en grâce d'Épernon dans ses dignités. Donc on voit là aussi que Épernon est d'une maladresse insigne puisque non seulement il se brouillera un jour avec Richelieu, alors qu'au départ ils étaient dans le même camp, il ne retrouvera même pas une véritable reconnaissance de Marie de Médicis dans la mesure où il y a cette anecdote qui est signifiante, c'est qu'elle a fait peindre des épisodes de sa vie par Rubens au palais du Luxembourg. Et on dit qu'en 1630, Épernon, visitant le Luxembourg lors d'un séjour fugitif à Paris, avait remarqué que dans l'épisode de Blois, on ne le représentait nulle part. Il en avait conçu de l'amertume, dit-on.
Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage un peu contradictoire ?
Alors, il y a un épisode que l'on n'a pas le temps de traiter, mais j'aurais voulu parler de son attitude comme gouverneur de Guyenne. De 1622 à 1638, il est gouverneur de Guyenne. Il a à faire face à des révoltes populaires et paysannes qui sont les plus violentes, les plus dramatiques de
l'histoire. Les Croquants, c'est la révolte paysanne la plus célèbre.
La plus grande.
À part les guerres de Vendée.
À part les guerres de Vendée, de toute l'histoire moderne. Et le duc d'Épernon a fait preuve d'une relative habileté. C'est-à-dire que, comme sans doute beaucoup de gouverneurs, mais plus que d'autres, il a l'expérience du traitement des foules, de la manière de parler au peuple. À son avantage, on dira que, certes, il a son caractère violent, hautain, s'est toujours manifesté, au fond, vis-à-vis de plus grands que lui, et que vis-à-vis des soldats, vis-à-vis
des paysans
des
émeutiers révoltés.
Ou des paysans révoltés, il fait preuve d'une capacité, d'une compétence de langage. Alors, en face des barricades qui couvrent la ville de Bordeaux en mai et en juin 1635 à l'occasion d'une révolte contre une taxe frappant les cabaretiers. Il parle en gascon aux barricadiers et il obtient, lui, il a plus de 80 ans, il vient à cheval avec une vingtaine de ses gardes et il obtient de faire ouvrir les barricades parce qu'il y a d'anciens soldats qui le reconnaissent. Il leur parle en gascon. Et quelques jours après, les regrattières du marché, c'est-à-dire les marchandes de poissons et de volailles, viennent lui apporter dans son château de Puy-Paulin des bouquets d'œillets et de roses. Donc il a, on dira, un charisme du chef de guerre, du meneur d'hommes, qui est capable de jouer, ma foi, sur deux tableaux, à la fois l'exécution des ordres, le maintien de la paix publique, éventuellement la répression, mais aussi trouver le langage approprié pour parler aux révoltés. Ça, c'est, je dirais, effectivement, ça résume le caractère de cet homme d'action, homme de guerre.
Homme de contact aussi.
Homme de contact, certainement. Alors, on a dit beaucoup de choses. On remarquera qu'il a constitué une assez belle fortune, qu'il a su marier son fils préféré, Bernard, avec Mademoiselle de Verneuil, qui est une fille légitimée d'Henri IV et d'Henriette d'Entragues. Donc, on ne peut pas rêver de plus haute alliance. Le dernier de ses fils, Louis le plus jeune, est parvenu au cardinalat en même temps que Richelieu. Donc, il est certain qu'il avait réussi momentanément à construire une extraordinaire fortune et une dynastie qui, par le suite de hasard de succession, va disparaître. Mais on peut dire qu'il avait prodigieusement réussi, qu'il avait incarné pendant plusieurs décennies une sorte de patriarcat militaire. Il était celui qui avait vécu, qui avait été le fidèle serviteur, plus ou moins fidèle, de trois rois. Et donc, une sorte de conscience militaire du royaume, on pourrait un peu lui donner ce titre.
Et en fait, vous me disiez tout à l'heure hors antenne que c'est un homme qui ne se donne à personne. Il se brouille avec tout le monde et il se donne à personne parce que c'est un solitaire.
Voilà, Jean-Pierre Bablon, il y a un terme que je trouve très heureux pour désigner, caractériser l'attitude d'Épernon, justement, qui reste dans le camp catholique sans soutenir la Ligue, qui se rallie à Henri IV après l'avoir abandonné dans un moment grave, qui est ami des rois sans être leur conseiller. C'est certes un grand seigneur, un grand gouverneur provincial, un favori personnel des rois, mais en même temps, c'est une planète solitaire, un personnage atypique qui a un charisme personnel. Enfin, certainement un génie de l'intrigue et aussi de l'habileté politique.
En fait, c'était un personnage qui ne pouvait pas plaire à Richelieu parce qu'il était, comme tous ces grands ambitieux, contre l'État centralisé. Et c'est un personnage que l'État moderne ne pourrait plus accepter.
C'est-à-dire qu'il appartient à une époque où le choix d'une monarchie absolutiste, c'est-à-dire d'un gouvernement extrêmement centralisé et où tous les pouvoirs de décision sont rassemblés autour du souverain, cette solution ne va être véritablement choisie, évidente dans l'histoire de France, qu'à partir de 1660. Et auparavant, dans la période où a vécu Épernon, d'autres hypothèses, d'autres styles de gouvernement sont envisageables. Et Épernon représenterait le modèle, le terme existait à l'époque, d'une monarchie mixte, c'est-à-dire où le roi partage son autorité avec les aristocraties terriennes, avec les intérêts provinciaux qui peuvent être représentés par, effectivement, les gouverneurs, les parlements provinciaux qui se font les interprètes, les avocats des attentes des sujets de l'ensemble du royaume. Donc le modèle de la monarchie mixte, Épernon aurait certainement été incapable de le théoriser, mais il le vivait. L'ensemble de ses attitudes politiques traduisent ce comportement, cette solution qui n'était pas inimaginable. C'est un modèle tout au moins que je crois important, enfin que j'ai essayé de souligner dans l'histoire du XVIIe siècle. C'est un modèle qui se trouve par exemple dans les monarchies espagnoles qui réunissent des couronnes très différentes, qui ont leurs coutumes, leur parlement, ou dans les monarchies scandinaves de Danemark et de Suède. Donc le modèle de la monarchie mixte, d'une monarchie tempérée par des assemblées aristocratiques, par des assemblées d'État, c'est quelque chose qui est viable encore à cette époque-là en France.
Merci beaucoup Yves-Marie Bercé. Alors, au mois prochain.
Au revoir.